France Info.
Deuxième partie de notre entretien avec vous, Patrick de Saint-Exupéry, rédacteur en chef de la revue 21. On s'intéresse aujourd'hui à Necker Island. C'est une île perdue au milieu de la mer des Caraïbes, un paradis fiscal qui appartient au milliardaire Richard Branson. Dites-nous tout.
Richard Branson, c'est une légende. Quelques mots suffisent. Virgin, voilà, c'est le propriétaire de Virgin, la musique, les disques, cet empire qui s'est étendu avec les avions, le low cost. C'est aussi une star avec son côté un peu playboy, ses longs cheveux blonds. C'est un homme qui sait faire parler de lui. Il a inscrit son histoire avec, entre autres, une provocation qui reste un concert des Sex Pistols devant Buckingham, et ça a marqué les esprits à l'époque. Donc c'est un homme qui joue de la provocation, mais intelligente. C'est un homme qui est devenu multimilliardaire et qui a doté aujourd'hui d'une puissance de frappe extrêmement importante. C'est un homme qui est au cœur de ce que l'on appelle la modernité en marche.
Et avec son argent, il a acheté une petite île qui fait partie des îles Vierges, sur laquelle il a installé, certes c'est un paradis fiscal, mais sur laquelle il a installé une espèce de club des grands noms de la finance du monde entier.
Oui, il s'est créé son propre état. On est au milieu des Caraïbes, l'île s'appelle Necker Island. Il a fait construire sa résidence à Bali, qu'il a ensuite fait déménager sur cette île pour l'installer. L'eau est à 30 degrés, il fait tout le temps beau, on boit du champagne, on navigue entre le sexe et l'alcool revendiqué. Il a hébergé Lady Di sur cette île, il reçoit ceux qui vont lui être utiles pour inscrire ses affaires dans la marche du monde. C'est donc un lieu très privilégié où se retrouvent quelques happy few qui, ensemble, et quand je dis quelques happy few, on a des conseillers de Clinton, on a des banquiers, on a des financiers, des investisseurs.
Des hommes de l'ombre, hein, très souvent.
C'est des gens qui ne sont pas très connus, mais ce sont des hommes d'influence. Leur nom ne vous dirait rien. Si je vous dis comme ça Hernando de Soto, a priori, vous avez du mal à visualiser, mais Hernando de Soto a été salué par Bill Clinton, ancien président américain, comme le meilleur économiste de tous les temps. C'est un homme qui peut téléphoner en direct à Vladimir Poutine et Poutine décrochera. Voilà le niveau d'influence. Et donc, il rassemble tous ces gens autour de lui dans cette île. Donc, il les accueille et puis on est dans une ambiance très feutrée. Et ils construisent l'avenir que vous découvrirez dans quelques années. Ils essayent de projeter leurs envies.
Et alors, justement, dans la revue 21, vous parlez d'un mini sommet, comme ça, organisé autour de la blockchain. Et la façon dont ce concept pourra révolutionner le monde demain ou après-demain, c'est quoi exactement la blockchain?
La blockchain. Alors, déjà, le principe du récit, c'est l'auteur, Hannes Grassteiger, s'est rendu sur l'île. Et donc, il raconte ce sommet de la blockchain qui s'est déroulé il y a un an. Quel est le principe? C'est tout simple. C'est au travers d'un moyen informatique, on désintermédiarise tout. C'est-à-dire, le notaire, les actes de propriété n'ont plus besoin, on n'a plus besoin d'intermédiaires.
C'est-à-dire que l'usager, lui-même le banquier, lui-même le notaire.
Absolument, au travers d'un processus informatique. Mais voilà, il n'y a plus de banquier, il n'y a plus de notaire, il n'y a plus besoin de registre de propriété, il n'y a plus besoin de rien.
Il n'y a plus besoin d'humain.
Il n'y a plus besoin d'humain, c'est ça la blockchain, c'est l'informatique qui supplée à l'humain. Et donc, il faut voir la réaction des gens, de ces 15 hommes d'influence qui sont présents là, qui trouvent tout cela merveilleux. C'est formidable. L'un dit « Je suis le principal organisateur au travers de mon organisme financier de la fuite des capitaux en Chine. » Et il me dit « Mais c'est formidable, je pourrais me passer tous les intermédiaires. Je n'ai plus besoin de personne pour faire ce que je suis en train de faire, à savoir organiser l'évasion des capitaux hors de Chine. » Et tous réagissent avec un sentiment de puissance, une conviction, mais terrible, hein, parce qu'on parle de notre avenir, de notre destin. Et lorsqu'on lit ça, c'est juste effondrant, parce que nous sommes dans un monde d'indécence la plus totale. C'est-à-dire qu'aussi, on va construire tout un discours qui permettra d'habiller, en fait, cette idée-là. C'est-à-dire, on va dire, mais c'est une idée généreuse, elle va permettre, par exemple, aux plus pauvres qui vivent dans les favelas, dont une des difficultés est de ne pas avoir d'acte de propriété, ils vont pouvoir avoir leur acte de propriété, donc ils vont pouvoir être intégrés dans le jeu économique. Et on va dire, mais c'est formidable.
Ils vont pouvoir acheter leur bidonville.
Donc voilà. Alors qu'en fait, ce que l'on voit s'écrire sous nos yeux, c'est un rapt, un hold-up. Et Branson, qui est cette figure au milieu de tout cela, est en train d'organiser un hold-up.
Et alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête sur les illustrations de ce reportage dans votre revue 21 et sur cette image qui représente Branson au milieu d'un banquet improvisé sur un canot pneumatique. Bon là, on a vraiment l'impression que c'est la scène avec le Christ.
Mais bien sûr, c'est la scène. Ce sont des démarches de type christique. Maintenant, cette illustration a été faite sur la base de photos. Et le titre de ce récit est « Nous, les Césars du monde ». C'est-à-dire, il y a le côté soi-disant prophète, parole divine, messianique, évangéliste. Puis en même temps, cette cette volonté d'imposer son autorité.
Merci Patrick de Saint-Exupéry. Nous, les Césars du Monde, aussi à lire dans la revue 21.